Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast. Oui. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est bien content de vous retrouver dans ce mois de septembre. C'est la rentrée. Aujourd'hui, on est avec Anne, avec Marie-Pierre, avec Françoise et moi-même.
Antonin,
oui. Du coup, on va commencer par toi, Françoise. Tu vas nous parler d'un auteur qu'on va bientôt retrouver dans les médiathèques.
Merci Antonin, bonjour à tous. Je vais vous présenter Kaoutar Archi que nous recevrons à la médiathèque Césaire le 13 octobre à 15h. Strasbourgeoise de naissance, sociologue de formation, elle enseigne notamment à Sciences Po de Paris et Reims. Elle est également chercheuse associée au CERLIS, le centre de recherche sur les liens sociaux. À son actif, une écriture plurielle, comme en 2016, cet essai « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne », dans lequel elle interroge les trajectoires individuelles de 5 écrivains algériens d'expression française, Assia Djebbar, Kamel Daoud, Bouamel Sansal et Kateb Yassine. Tout récemment, sa participation à un collectif, Écriture migrante du genre, son article intitulé « Assia Djebbar, de la langue de la domination à l'écriture de l'affranchissement » a pour objet la relation particulière d'Assia Djebbar à la langue française en raison de son plurilinguisme, berbère, arabe dialectal, arabe classique et français. Auteure de fiction également, elle publie en 2009 son premier roman, Zone cinglée, un récit entre science-fiction et anticipation. En effet, dans la zone cinglée de la cité, une étrange armée pour un non moins étrange combat. Ces mères, lasses de pleurer leurs fils qui se perdent dans la ville centre, créent une armée d'enfants pour empêcher le souvenir des morts de hanter les vivants. En 2011, un second roman, À l'origine, notre père obscur. Un texte fort qui explore la vaste thématique des rapports hommes-femmes et la violence qui peut en découler. Elles sont enfermées dans la maison des femmes, épouses, filles ou sœurs, ou chefs d'accusations supposées ou réelles de désobéissance aux lois patriarcales. Dans cet univers carcéral, une fille cherche en vain l'amour de sa mère. Celle-ci, en revanche, n'a de cesse d'espérer que l'homme qu'elle aime vienne à délivrer. S'affranchir des injonctions culturelles et familiales par la rupture semble alors le seul moyen de recouvrer la liberté. Puis un dernier roman en 2014, L'ampleur du saccage. Et cette fois-ci, une fiction qui n'est pas sans faire écho à la tragédie grecque. Peut-on échapper à son destin et stopper cette fatalité morbide ? Areski, inculpé pour viol et meurtre, rencontre Rida, le directeur de la prison, qui comprend que leurs vies sont liées lorsque le détenu lui révèle le nom de son tuteur, Si Larbi. En compagnie de Rieb, un autre prisonnier, ils fuient la France, tous les quatre, pour retrouver l'Algérie, où 30 ans plus tôt, un sacrilège a noué leur trajectoire. Kaoutar Archi a une écriture précise, juste, sensible, parfois violente. Elle n'est jamais dans le jugement et laissera à son lecteur le soin de l'interprétation. Au-delà de la géographie des lieux, elle nous interroge sur le rapport que nous entretenons à notre identité, à la transmission, à l'héritage de notre propre histoire familiale, en particulier dans nos sociétés patriarcales. Hervé Sanson, d'ailleurs, a écrit que ses romans et nouvelles entendent explorer l'ambivalence présente au cœur de la cellule familiale, à l'origine des plus grands désastres, comme des émotions les plus intenses. Convié à différents débats télévisés, son charisme ne fait aucun doute et sert une réflexion riche, en s'inscrivant dans une véritable dimension d'échange. Aussi, je vous invite à la rencontrer le 13 octobre à 15h à Césaire. Et je passe la parole à Marie-Pierre pour un album.
Merci Françoise. Oui, je voudrais parler de « D'entre les ogres » signé par Thierry Baume et Vincent Dedieu. C'est un album qui paraît plutôt sombre au premier abord. Sur la couverture, on découvre un œil menaçant ou furieux d'une petite fille. Elle se tient derrière un gros gâteau et serre fermement un long couteau. Et on se demande si elle convoite le gâteau ou bien nous qui la regardons. Alors ça commence comme ça. C'est un panier qui pleure, seul au milieu de la forêt. Une main s'en saisit, c'est une main d'ogre, un ogre gros, gras et sale. Dans une chaumière, loin de tout, l'ogre rejoint son ogresse. Grand sourire et dents dehors, c'est le plus beau jour de leur vie. On les voit, admiratifs devant ce panier, l'ogresse tend la main comme pour s'en saisir. On hésite encore, que va faire cette sombre ogresse? Ainsi commence l'histoire de Blanche, petite fille d'entre les ogres. Très vite, la chaumière devient son palais, la forêt son royaume. 200 ans que les ogres attendaient un enfant. Sa première chaise est un trône, sa première robe est en soie, son lit un océan de plumes. Et que croyez-vous que l'on voit ici? On voit un ogre à genoux, noir et sale. On voit une petite fille hirsute, le cheveu filasse. Mais son regard, son sourire triomphant, juché sur le dos de l'ogre, donne une image de vrai bonheur. Mais avec le temps viennent les mots, les questions qui dérangent. Un jour à table, Blanche s'interroge. Pourquoi ne peut-elle pas manger la même chose que ses parents? La question est glaçante. À chaque repas, Blanche questionne et s'énerve de ne pas recevoir de réponse. Pourquoi deux menus autour d'une seule et même table? Et on la voit là vraiment très en colère, le regard noir, ses petits bras maigres croisés devant elle. Pourquoi ne les suit-elle pas la nuit quand ils chassent? Quelle est cette odeur dans la cave? Cela ne peut plus durer. Alors l'ogre et l'ogresse prennent une terrible décision. La seule possible? Dans son sommeil, Blanche est embaluchonnée, la mort dans l'âme, l'ogre va rendre l'enfant au sien, à ses semblables. L'ogresse est désespérée, elle se tient la tête entre les mains, c'est une mère qui pleure son enfant. Portant Blanche sur son dos, l'ogre courageux arrive aux portes du village. Le jour se lève, mais il n'arrive pas à partir. Il reste là, à quelques mètres, pétrifié. Et bien sûr, il est surpris. On l'encercle, on veut l'exécuter, il est emmené sur l'échafaud, car on ne fait pas de procès à un mangeur de chair humaine. On le condamne et on le tue. La foule hurle la haine. Et je peux vous dire que cette foule est effrayante. Mais qu'est-ce qu'ils sont laids, ces hommes, hurlant, le regard mauvais! Blanche est là, qui voit tout, comprend tout, enfin, de sa vie d'entre les ogres, d'entre des parents imparfaits. Alors elle s'avance, elle sait qu'un geste suffira, elle monte sur l'échafaud, attrape l'ogre à deux mains et enfonce sa tête dans la gueule du monstre. Une bouche énorme qui semble l'avaler tout entière. Elle en ressort sans une égratignure. La foule se tait, médusée. Blanche peut alors chercher, sur les visages figés, un indice sur sa véritable famille. Elle cherche l'étincelle, la lueur, celle, en fait, qui n'a jamais quitté l'œil de l'ogre. Ce livre, on le lit une fois, deux fois, trois fois, et chaque fois on y trouve quelque chose d'autre, parce que c'est grave, parce que les ogres agissent en parents, mais aussi en ogres. Et les hommes, eux, dans leur haine, sont-ils encore toujours des hommes? Le dessin est sombre, le récit bouleversant, et la force triomphante de l'amour qui transparaît donne à ce très bel album beaucoup de puissance et d'énergie. Un album à lire en famille, à partir de 6 ans. Et je laisse la place à Antonin. Antonin, il nous parle d'un film, c'est étrange, un film de cinéma, une histoire.
Eh bien, ça a l'air très bien, cet album, ça donne envie. Eh bien, bien le bonjour à tout le monde. C'est la rentrée. C'est bien pour certains, triste pour d'autres. En tout cas, nous sommes là pour vous changer les idées et vous proposer de petites perles pour bien débuter ce mois de septembre. On a déjà commencé. Pour ma part, je vais revenir sur un film qui a frappé la fin d'année 2017. Je vais vous parler de Three Billboards, avec mon bel accent, Les Panneaux de la Vengeance, de Martin McDonagh. On connaît cet auteur pour le burlesque Bon Baiser de Bruges. On reste avec ce nouveau film d'une certaine façon dans le burlesque. Ça pourrait être un film écrit par les frères Coen. L'auteur nous jette littéralement dans son film. De cette première scène découle le titre de ce film génialissime. Une femme, la cinquantaine, s'arrête en voiture devant trois grands panneaux routiers sur une route un peu déserte d'une ville américaine des plus banales. En suit le scandale. Elle fait afficher sur ses tableaux « Violée pendant son agonie, toujours aucune arrestation, pourquoi chef Willoughby ?» Le réalisateur ne s'encombre d'aucune explication et nous propulse directement sur le sujet, à savoir le tonnerre de réactions qui vont cascader suite à cette annonce fracassante. Le film est servi par une belle brochette d'acteurs. Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, pour ne citer que. Vous me direz, la présence de bons acteurs ne garantit rien. Mais là, détrompez-vous, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Frances McDormand, connue pour son rôle exceptionnel dans le caustique Fargo des frères Coen, transcende le film. En mère désespérée mais dure comme une chique, Elle impose un rythme physiquement en malmenant son entourage pour arriver à ses fins, faire avancer l'enquête du meurtre de sa fille. Mâchoire serrée, de scandale en menace, sa volonté froide laisse le spectateur haletant, chahuté par sa poigne et son jusqu'au boutisme. Et en même temps, cette dureté flirte avec ses faiblesses et ses défauts, qui ne sont pas des moindres. Méchanceté presque gratuite, énorme manque de tact, violence. S'il n'y avait qu'elle, le film serait déjà une réussite. Mais voilà, l'auteur n'a pas fait les choses à moitié. Ce film est une fresque entremêlée de personnages caractériels, tous plus intéressants et attachants les uns que les autres, dans une histoire humaine passionnante. Le réalisateur réussit efficacement à nous perdre dans les rôles et les sujets principaux du film. Quand, gentiment, le spectateur serviable suit très docilement la tension provoquée par le remue-ménage de cette mère, l'auteur, par petites touches ou à coups de franches claques, nous structure un tableau beaucoup plus complexe de la situation et des personnages. À coups de conversations au hachoir, de scènes électrisantes, des personnages au profil désespérant d'antipathie vont habilement, par une main de maître, prendre de l'ampleur jusqu'à devenir des personnages nous accrochant le cœur et qu'on ne voudrait pour rien au monde laisser au moment du générique. Voilà ce qu'il faut dire de ce film. C'est un film si intense qu'il vous tient à votre siège. D'ailleurs, éteignez la lumière, laissez-nous vivre la suite de cette histoire passionnante. Il n'y a rien d'autre à dire d'ailleurs. Où êtes-vous en lecture pour relancer le film ? Les panneaux de la vengeance de Martin McDonagh, à retrouver dans les bacs de la médiathèque Vaillant. Bah, je passe la parole à Anne.
Oui. Oui, merci, parce que on parlait du mois de septembre. Et ben moi, pour cette chronique de septembre, qui est un mois maudit pour bon nombre d'entre nous, je vous propose de laisser traîner une oreille sur un album de chansons de rupture, histoire de bien entamer cette saison 2018-2019. Et alors, c'est l'histoire de Marlon Williams, jeune homme de 28 ans au physique et à la voix de crooner flamboyant qui s'est déjà fait remarquer par les amateurs de musique country. Un jour, allez savoir pourquoi, il se fait larguer par sa copine, la chanteuse non moins surdouée, Aldous Harding. Et là, c'est le drame. Plus de country, mais à la place, la nécessité, l'urgence de faire un album à visée hautement thérapeutique. Et ça, c'est lui qui le dit. Et cela présente certains risques, comme celui de provoquer chez l'auditeur la réaction suivante.
Oh non ! Encore un album sur la rupture et puis le chagrin et la vie qui ne vaut rien !
Oui, sauf que l'album de Make Way for Love, l'album de Marlon Williams, s'il ne sonne pas comme une explosion de joie et de gaieté, ne nous plonge pas pour autant dans un abîme de désespoir. Et là, on reprend tout depuis le début. Alors, Make Way for Love relève le challenge fou de nous faire aimer 11 chansons qui décrivent la fin de l'amour, l'horrible fin de l'amour, et surtout les différents états dans lesquels on peut se trouver plongé lorsque la personne aimée nous quitte. Désespoir, certes, incompréhension, obstination, haine, il y en a pour tous les goûts. Les mélodies ici sont variées et nous font traverser des atmosphères allant de la ballade folk à la pop planante en passant par des slow rétro délicieusement crapuleux. Et les paroles sur chaque morceau questionnent, analysent et disent le regret de n'avoir pas fait ce qu'il fallait ou pas assez, de n'avoir peut-être pas vu ce qui n'allait pas avec ce détachement qui donne le côté fondant à l'album. Comme pour être sûr d'avoir fait le tour de cette rupture, on entend la voix de celle qui est à l'origine de l'album, Aldous Harding, chantée avec Marlon Williams. Plus de reproches, plus de honte et plus personne pour obtenir ce qu'il veut. Et là, la boucle est bouclée et tout peut enfin recommencer. Isn't it strange?
Impossible to claim your reward. I cannot explain the emotions I can barely afford to contain. You're the same. You hide away from anything that turns you on. Nobody gets what they want anymore. No words on a screen can possibly protect. Place a ring around us and pray and sing the name. There is no blame, there is no shame anymore. Nobody gets what they want anymore. No.
Voilà, c'était un extrait de Nobody Gets What They Want Anymore. Vous le trouverez sur l'album Make Way for Love de Marlon Williams. C'est disponible à la médiathèque Vaillant. Et c'est le moment de nous dire au revoir. Donc au revoir.
Au revoir.
Et on se retrouve le mois prochain. À bientôt.